Ce que j'avais à cœur de communiquer ce matin est à la fois très simple et pas simple, parce que derrière les mots, la réalité, on ne la maîtrise pas. Hein. Comme chaque fois qu'on parle de choses spirituelles, dans le vrai sens du mot spirituel, hein, qui n'est pas faire les choses bien ou les choses mal, mais d'être conduit par l'esprit, en lien avec son esprit qui nous amène. Et je continue d'avancer dans un livre dont je n'ai plus parlé depuis un moment, mais je le mange à tellement petite dose, tellement qu'il est dense, que ça fait plus d'un an et demi que je suis dessus. La grâce peut davantage. Hein, vous rappelez, j'en ai parlé dans le passé. On peut faire les choses, ou on peut laisser l'Esprit de Dieu faire les choses. Et c'est tout à fait un autre chemin. La grâce peut davantage dans ce sens-là. Et j'étais interpellé aussi par tout ce que j'ai pu vivre ces dernières semaines, qui était très encourageant. Notamment, j'ai eu des nouvelles de Sophie et puis de leur groupe Découverte, tous les quatre là. Et ce qu'ils vivent, ces quatre personnes-là, c'est incroyable. C'est juste magnifique. Et je me dis, 10 ans de s'asseoir, écouter un message, ne ferait pas ce que moins d'une année de vie comme ça qu'ils ont toutes les deux semaines fait dans la vie de chacun d'entre eux, quoi. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes venus pour rien ce matin, du tout. Merci d'être là. Dieu s'en sert aussi. Mais j'ai eu d'autres choses comme ça où on essaie de faire des choses, on prie pour ça, on met en place, etc. Puis ça ne se passe pas. Et puis tout d'un coup, paf, ça se passe et ça se fait tout seul. Et c'est juste que quand c'est le moment et que Dieu arrive à toucher là où il faut, les choses se passent, quoi. Nous, on fait ce qu'on a à faire, mais voilà, il faut qu'il fasse son travail. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble, hein. Et donc, je voyais comment la différence entre l'information ou les informations, quand je dis information, c'est la connaissance de choses vraies, justes et bonnes sur Dieu, et puis la relation, hein. Souvent, on a cette formule, nous les évangéliques, mais nous, on n'a pas une religion, on a une relation. Mais souvent, c'est justement, ça fait partie de ces formules qui nous protège d'entrer dans une vraie relation. J'ai réalisé à quel point on peut utiliser notre connaissance pour empêcher Dieu de nous toucher. Par exemple, j'ai évolué à une époque dans un milieu où on aimait bien tout catégoriser, la doctrine en catégorie, etc., ces choses-là. Hein. Et pour chaque chose, il y avait une définition. Puis moi, ces définitions, je les trouvais intelligentes. Elles étaient justes, hein, pas des définitions fausses. Mais j'ai réalisé qu'en fait, ces définitions, ça devenait un bouclier pour me protéger du travail de Dieu dans ma vie. Hein. Par exemple, on citait un premier verset, « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Il y a derrière cette parole du Christ, il y a un chantier de 10 000 vies, hein, pour nous libérer. Et puis, de suite, on disait, « Ah, ta parole est la vérité, sanctifie-la par la vérité, donc si je lis la Bible, je suis dans la vérité. » Paf, raccourci, la boucle est bouclée. Et maintenant, ce verset, il ne va plus jamais me toucher. Parce que je connais les trois définitions que je mets bout à bout. Et puis, chaque fois que je tombe sur ce verset, il y a le deuxième qui vient. Et puis, ah oui, moi, je lis du moment que j'ai ouvert le matin mon petit livret et que j'ai lu ma Bible, je suis dans la vérité, je suis libéré, paf, 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 et c'est verrouillé. Et ça, c'est vrai pour tout. Moi, j'avais une définition que j'avais apprise à l'école biblique, la grâce, faveur imméritée. Donc, chaque fois que je lisais le mot grâce, faveur imméritée. Mais c'est vrai! Mais c'est des milliards de choses d'autres. Et du coup, cette définition que je connaissais, qui était rassurante, parce que, je maîtrise, je connais, ça va avec ça, hein, le bleu avec le bleu, le fil bleu avec le fil bleu, le fil rouge avec le fil rouge, vous connaissez. Hein. Et puis voilà, c'est comme ça, je suis en sécurité, et derrière toute cette façade de connaissance, qui encore une fois est utile et juste, hein, ce que je suis réellement, au fond, n'était pas touché. Ça reste au fond, hein. Et puis c'est là derrière ce que la psychologie appelle le surmoi, hein, ce petit truc là-haut dans la chambre de bonne, je crois que c'est Coluche qui disait ça. Hein. Et tout ce qui est vraiment ce que la Bible appelle le cœur de l'homme, hein, il y a un autre vocabulaire, lui il n'est pas atteint parce que je me protège avec ces définitions. Et en lisant un roman d'un auteur nîmois qui est décédé maintenant, mais qui a quand même eu un prix Goncourt, donc c'est pas rien. À un moment dans le roman, il y a un personnage qui dit ça, je l'ai noté pour pas mal la dire. C'est un des deux personnages se moque des églises, etc. Puis l'autre lui dit, pourquoi tu t'en prends toujours aux églises? Et la réponse est magnifique. Parce que les croyants y ont emprisonné Dieu de peur qu'il n'empiète sur leur vie privée. C'est joli, hein ? Et en fait, on fait ça, alors moi je peux lire ça et puis dire « Ah oui, les catholiques font ça, ou les protestants moins bien que moi font ça, ou les autres évangéliques font ça, ou mon voisin fait ça, mais je fais ça. Hein. » On enferme Dieu dans des formules, dans des définitions, dans des doctrines, dans de la connaissance, pour pas qu'il empiète sur notre vie privée. Je te donne ça, et puis là-dedans, fais ce que tu veux, puis même si je dis « je te donne tout », hein, comme on l'a chanté, voilà. Mais ça doit rester dans ce que je contrôle, dans ce que je maîtrise. Or, par définition, la vie de l'esprit, Jésus a utilisé cette image, hein, c'est comme le vent, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va, ni on en voit les effets. Les feuilles bougent, ah, il y a du vent. La poussière se soulève, ah, il y a du vent. La voile se gonfle, le bateau avance, ah, il y a du vent. Hein. Et c'est vraiment important. Donc, croire ou savoir que Dieu est, et même savoir qui il est, alors c'est un prérequis indispensable. Je ne suis pas en train de dire ce matin qu'il ne faut pas étudier. Hein. Vous me connaissez, et j'ai passé une bonne partie de ma vie à le faire, je continue de le faire, c'est utile, mais ça doit être à sa place. Hein. Mais croire ou savoir que Dieu est, qu'il existe, ou qui il est, c'est juste le point de départ. Si je prends une image simple, c'est un peu comme quelqu'un qui serait né dans les montagnes, qui n'a jamais vu la mer. Et un jour, on lui dit, toi, tu es fait pour naviguer et explorer les océans. Oh. Et maintenant, il se dit, ah ouais, c'est vrai. Il s'achète un bateau, il le laisse sur sa montagne et il dit, je crois que la mer existe. C'est devenu un croyant. Hein. Avant, il ne savait pas que la mer existait. Et peut-être on lui a montré une photo, ou on lui a raconté, tu vois, c'est de l'eau, mais beaucoup d'eau, c'est comme la Birse, mais 10 000 Birses côte à côte, hein, ou 10 millions de Birses. Et puis quand il y a du vent, ça se remue, ça s'appelle les vagues. Et pour aller dessus, ben, c'est un peu comme une planche de surf, ou comme un canoë, mais en 10 fois plus grand, ça s'appelle un bateau. Hein. Et puis maintenant, il est devenu croyant, ça existe. Puis peut-être, il passe sa vie à dire aux autres, vous savez, la mer existe, et j'ai un bateau dans mon garage. Et puis il travaille à son bateau, il repeint, il met un joli nom, il change de couleur, il met... C'est cool, mais on est fait pour naviguer. Et tout le monde sait que, ben, ici vous êtes plus montagne que mer, mais quand on s'affronte aux éléments naturels, on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est malheureusement pour ça qu'il y a des drames. Hein. De très très bons alpinistes meurent, de très bons marins se noient... On ne maîtrise pas, hein. On maîtrise un peu, mais pas tout. On a beau avoir le matériel, la carte, la boussole et tout, ben, quand on est parti, qu'il y a les vagues, qu'il y a les vents, qu'il y a les tornades, c'est autre chose. Et nous, les êtres humains, depuis le début de notre histoire, hein, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et on se protège de Dieu, et c'est fou parce que la religion peut être une des meilleures choses pour se cacher de Dieu. L'Église est le meilleur endroit pour se protéger de Dieu. Hein. Parce que, ben voilà, on croit que c'est là qu'on va le rencontrer. Et on est tous comme ça, je suis comme ça, on ne peut pas être autrement. Mais on doit le savoir. Et du coup, il y a un travail qui peut commencer de se faire. Et ce travail, c'est l'Esprit de Dieu qui va essayer de passer au plus profond. Et il se fait, on va dire, en deux temps. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean 16, c'était juste avant qu'il quitte la terre, et qui nous abandonne, le lâche, hein, il nous laisse tout seul. Non, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je suis là, ben je suis là extérieur à vous, même si ce que je fais c'est magnifique. Mais c'est mieux pour vous que je parte, parce que si je m'en vais, j'enverrai l'Esprit Saint. Et lui, il va faire des choses que moi je ne peux pas faire. C'est Jésus qui parle, hein, que lui ne peut pas faire. Il parlait à ses disciples, face à face, il voyait ses yeux, ses cheveux, ses dents, comment il était, il comprenait tout, il pouvait le toucher, manger avec lui. Mais ça restait extérieur. Et ils ne comprenaient pas. Et nous, on lit les évangiles, on se dit, mais ils sont bêtes, si j'avais été là, moi j'aurais cru, parce que forcément, hein, de le voir, faire les miracles, marcher sur l'eau. Non, non. Parce que ça reste extérieur. Hein. Marcher sur l'eau, quand Jésus fait un miracle, ou quel que soit le miracle, c'est comme dire à celui qui est sur sa montagne, je te montre une vidéo de la mer. Ah, j'ai vu une vidéo de la mer, c'est qu'elle existe. Bon, on sait qu'aujourd'hui, les vidéos ne veulent rien dire, mais hein, on peut les fabriquer. Mais voilà, ça ne change rien. Ça n'a rien à voir avec mettre son pied dans l'eau et puis commencer de nager ou monter sur le bateau et aller plus loin. Et le Saint-Esprit, donc, Jésus dit, Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et c'est rigolo parce que j'ai vu dans beaucoup de traductions, ils ont changé parce que porter, qu'est-ce que ça veut ? Ils ont mis supporter. Comme si, vous ne pouvez pas les supporter maintenant, mais un jour vous le supporterez. Non, vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est trop. Vous n'avez pas ce qu'il faut, hein, encore. Hein. Quand le défenseur, c'est un des noms de l'esprit, sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira littéralement, il vous guidera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. La vérité, elle peut être agissante en nous que par le travail de l'esprit. Et le travail de l'esprit, c'est pas un truc émotionnel qui fait que j'ai les poils du dos qui se raissent ou les cheveux, si j'en ai, qui se dressent sur la tête. Ou non. Les émotions peuvent réagir au travail de l'esprit. Mais c'est pas les émotions. C'est une œuvre comme le vent, invisible, mais on en voit les effets. Ça fait bouger quelque chose là au fond. Et Jacques nous dit ceci, l'apôtre Jacques dans sa lettre, « Rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Et là, vous voyez par exemple un exemple concret encore de comment on se protège de l'action de Dieu. On lit ça et puis on dit « C'est pour les gens non-croyants qui ne veulent pas recevoir la parole de Dieu. On va prier pour que... la parole de Dieu pousse dans leur cœur et qu'ils deviennent des croyants. » Ça peut être une application. Ce n'est pas ce que dit ce verset. Il parle à des chrétiens. Hein. Recevez avec douceur. Et le mot douceur, c'est pas, ça ne veut pas dire sucré. Ce n'est pas « il est gentil, il est doux ». Non, non. C'est la détermination tranquille, mais très ferme, de faire ce qu'on sait qu'on doit faire. Voici Jésus qui vient à toi plein de douceur. C'est juste après qu'il dit, Jésus dressa résolument son visage vers Jérusalem, où il savait qu'on allait le faire mourir de façon violente. C'est ça la douceur. C'est pas faire des cris, hein, c'est juste faire tranquillement ce qu'on sait qu'on doit faire et avancer dans cette direction. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui a le pouvoir de sauver vos âmes. En fait, le travail du Saint-Esprit, il se fait en deux fois. Deux fois invisible, mais deux fois. Il met des choses en nous. Il plante des petites graines. Vous savez, quand on je ne sais pas si on fait des travaux chez vous, moi, ils sont venus creuser parce que j'avais des fuites dans les tuyaux, donc il y avait de l'herbe avant, puis ils viennent avec leur pelle, ils retournent tout, puis après, il n'y a que de la terre, et puis la grue passe dessus, puis il n'y a que de la terre. Il n'y a que de la terre. Moi, je ne sème rien, il pleut, il se passe quelque temps, et tout d'un coup, il y a de l'herbe qui pousse. Elle sort d'où, cette herbe ? Moi, je n'ai pas mis d'herbe. Hein ? Elle était dans la terre. Et puis, elle pousse. Je la voulais pas, ce n'est pas la question, mais elle pousse. Ben, Dieu fait la même chose. D'une part, il met des semences dans nos cœurs, et ensuite, il va venir de l'extérieur les stimuler pour les faire pousser. Hein ? C'est la pluie, c'est la chaleur, c'est ce qui fait que ça pousse. Et c'est pour ça que certaines personnes avec discernement, et souvent c'est des poètes, ont dit on ne peut apprendre que ce qu'on sait déjà. Mais alors, si je le sais, pourquoi je l'apprendrai ? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est qu'on peut spirituellement apprendre quelque chose que si la semence a été mise en nous et qu'à un moment, par quelque chose qui se passe, elle est activée et elle se met à pousser. Mais il fallait déjà qu'il y ait la vie. Si les graviers qui sont dans la terre, ils ne se mettent pas à pousser et puis faire une tige, il y a plein de petits graviers. Parce que les graviers n'ont pas la vie en eux, hein, les petites pierres. Par contre, une semence, quelle qu'elle soit, à un moment, elle pousse parce qu'elle a la vie en elle. Et Jésus dit, mon Père m'a donné d'avoir la vie en moi, et moi je vous donne mon esprit pour que vous ayez la vie en vous. Et vous voyez, raccourci, on pense à la vie éternelle. Ah, la vie éternelle, c'est pour quand on sera mort. Faux, 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 faux. Oui, il y a une vie après la mort, mais la vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort. L'enfer aussi, c'est la vie après la mort, ce qu'on appelle l'enfer. Hein ? Pour autant, ce que ça veut dire. Non, la vie éternelle, c'est la qualité de vie qui existe dans la relation qui existe depuis toujours, c'est un mystère, entre le Père, le Fils et l'Esprit, et cette qualité de vie qui est avant tout relationnelle, le Père qui aime le Fils qui aime le Père, l'Esprit qui aime le Père et le Fils qui aime le Père, et tous les trois, hein, qui sont ce grand générateur de l'univers, ce tourbillon d'amour, cette danse cosmique, selon C.S. Lewis. C'est ça la vie éternelle. Et lorsque cette vie-là vient en nous, ben, elle fait un travail, mais il y a là aussi encore un autre mystère, c'est plein de mystères, hein. Il n'y a que des mystères, c'est pour ça que c'est intéressant. Il y a à la fois un Dieu qui est tout-puissant, qui est à sa disposition une vie qui peut faire pousser des choses incroyables, et puis il a donné à l'être humain un pouvoir incroyable aussi, qui est le consentement, on dit le libre-arbitre, hein. Moi j'aime bien le mot consentement, qui fait que je ne peux pas fabriquer les choses, mais je peux les empêcher. Je peux les stopper. Pour les gens qui ont dit ben moi je veux pas de Dieu dans ma vie, ben Dieu a créé un espace où il s'est retiré alors qu'il est partout pour qu'il puisse vivre sans lui. Je pense que c'est ça l'enfer. C'est l'endroit où dans son amour Dieu a dit à ceux qui veulent pas de lui, ben je me retire d'un endroit pour que vous soyez entre vous sans moi. J'ai dit de façon un peu poétique, mais je pense que c'est correct et c'est pas complet. Donc notre consentement, mais en même temps, vouloir ne fabrique pas les choses. Vouloir fait pas... Je peux vouloir que la pierre pousse, mais la pierre, elle ne poussera pas. Mais donner à la semence ce qu'il lui faut pour qu'elle pousse, ce n'est pas moi qui ai mis la vie dedans, mais je peux... Hein, voilà. Si là où il y avait mon herbe, je mets une bonne toile noire bien épaisse, et puis dessus, je mets 20 cm de tant pis les Français ne comprendront pas, de chaille. Et puis encore dessus, je mets des cailloux. Dessous les cailloux, la chaille, la toile noire, il y a toujours les graines vivantes. Mais elles pousseront jamais, probablement. Si, dans quelques temps, un petit tremblement de terre, machin, un truc, hein, ça va, tout ça, ça va exploser, la terre va remonter, et les graines, là, peuvent pousser. Ben, nous sommes comme ça. Hein. On ne fabrique pas la vie, mais on peut y consentir ou pas. Et en fait, ce que Dieu veut faire en nous, c'est nous amener à la repentance. Et ça, c'est encore un mot qui est tellement piège. Parce qu'on pense à la repentance, alors je me flagelle le dos parce que je suis quelqu'un de mauvais, puis maintenant je vais devenir bon, je me repens. Hein. C'est pas ça. Enfin, c'est peut-être, ça peut être un sens du mot, on donne au mot le sens qu'on veut. Mais déjà, c'est pour nous compliquer le travail. Dans le Nouveau Testament, il y a deux sens au mot repentance. Il y a Jean, le baptiseur, hein, le plongeur dans l'eau. C'est pas un mixeur, non, c'est un homme. Qui a pratiqué un baptême. Le baptême, ça existe dans beaucoup de religions, dans beaucoup de rites, hein, parce que c'est symbolique. C'est laver quelque chose. On rentre dans l'eau, on le sort, il est propre, il est pur. C'est un symbole de naître de nouveau, tout ce qu'on veut. Donc Jean a pratiqué un baptême de repentance qui était juste... Ben, les gens qui venaient, qui disaient, mais en fait, ce que nous, on vit, on est le peuple de Dieu, on a la loi, on a ci, on a ça, mais ce qu'on vit, c'est pas ça. On voudrait autre chose. Ah, vous voulez autre chose ? Venez, je vous baptise, hein, comme un témoignage du fait que vous voulez autre chose. Et même Jésus est passé par là, par ce baptême-là. Mais quand Jean voit Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Ah, moi, je vous ai baptisé d'eau, c'est-à-dire, moi, je fais un petit acte symbolique, là, paf, paf, pour dire, on veut autre chose. Mais voici celui qui vient et qui vous baptisera d'Esprit Saint. Lui, il va faire autre chose. Il va vous amener à une repentance qui n'a rien à voir avec juste le regret, un peu de culpabilité ou l'envie que ça aille mieux. La repentance, en fait, c'est un don de Dieu, donc je ne peux pas la fabriquer. Hein, et c'est surprenant, mais en fait, c'est très très facile maintenant avec les outils informatiques. Avant, il fallait prendre la concordance et chercher dans des pages. Hein. Cherchez tous les textes sur la repentance et vous allez voir, c'est très très clair. C'est Dieu qui met la repentance dans les cœurs. Pas le fait d'accepter, de croire en lui. Hein. Je vous donne juste un des versets, parce que c'est un des plus clairs. Hein. Romains 2, 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience, ça parle Dieu, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Hein, c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance, ce n'est pas la peur, la crainte, etc. Ou alors, le Seigneur ne tarde, c'est 2 Pierre, hein, 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et cette repentance, en fait, c'est quelque chose qui est surprenant. C'est-à-dire que le travail de l'esprit, lorsque je lui laisse l'accès, que par quelque chose d'un peu étrange et surnaturel, il arrive au fond de mon cœur, il change quelque chose, c'est ça. Et tout d'un coup, je ne suis plus comme avant. Et c'est pour ça qu'on a peur. Et c'est pour ça qu'on se protège par tout ce qui est la religion, qui est mettre des formules enfermées, des rites, des traditions, des murs, des machins, des trucs, pour que ça ne nous touche pas au fond. On le sait, ça, relationnellement. Il y a des tas de gens, on peut les côtoyer, mais on ne va jamais les connaître parce qu'ils ont mis en place ce qu'il fallait pour se protéger. Ce n'est pas des gens méchants, ce n'est pas des gens froids, ce n'est pas des criminels, c'est rien du tout. C'est des gens qui ont peur. Parce que si quelqu'un accède à l'intérieur, il peut me blesser, il peut me faire mal, il peut me... On a tous été potentiellement trahis, blessés par quelqu'un. Donc on met des défenses, on s'est construit comme on a pu. Mais du coup, il n'y a plus de relation vraie. C'est juste ma façade, mon image, ce que je donne. Salut, wesh. Alors, on a tous un personnage qui évolue avec l'âge. À l'adolescence, on est ce personnage-là. Après, en tant que jeune adulte, on est ce personnage-là. Et puis après, on est bien. Puis après, il y a le personnage quand je suis vieux. Mais c'est toujours une façade. Et derrière, c'est pour me protéger. Il y a moi, quoi. C'est encore la même chose. Et Dieu veut qu'on le laisse passer. Je me tiens à la porte et je frappe. Ce n'est pas un verset pour les non-croyants. C'est l'être aux églises. L'église, c'est l'assemblée de ceux qui sont enfants de Dieu. Si quelqu'un entend ma voix, elle ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais rentrer, je vais prêcher. Non. J'entrerai et je mangerai avec lui. Et lui avec moi. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort pour, comme symbole d'une relation, que le fait de manger ensemble? C'est là où on laisse tomber nos défenses, parce que ça veut dire que je suis à peu près sûr que l'autre en face n'est pas en train d'essayer de m'empoisonner, qu'il ne va pas utiliser le couteau qui était là pour couper la nourriture, pour me le planter dans le ventre. Non, on est sur la même table, on partage les mêmes aliments. Et c'est pour ça que si vous lisez les évangiles, c'est impressionnant dans les récits, le nombre d'événements où Jésus est à table avec les gens. Il y en a beaucoup plus que ceux où il est en train de prêcher. Oui, il prêche sur la montagne, il prêche deux, trois fois, il enseigne aussi. Mais la plupart du temps, il est à table et il pose des questions. Et ça, c'est magnifique. Et en fait, ce qui va permettre que Dieu ait accès à notre cœur, c'est la relation de confiance. Et ça se passe avec Dieu et ça se passe entre nous. Ce qui fait qu'on progresse dans nos vies, c'est ces deux choses-là. Quand il est dit, là aussi, autre texte qu'on a verrouillé pour pas qu'il nous touche, le juste vivra par la foi. Ok. Alors avant, on croyait que c'était par les œuvres qu'on était réconcilié avec Dieu, maintenant on sait que c'est par la foi, donc il faut croire que Dieu existe, qu'il est comme ci, comme ça, etc. Et puis si on le croit, on est juste. C'est pas faux. Mais c'est à peine la surface. Littéralement, le juste vivra de foi. Pas deux, le chiffre deux. Quand Nalia, ma dernière fille, était petite, elle a une période, j'ai noté, je voulais en faire un livre, je ne l'ai encore pas fait, mais peut-être un jour, quand je serai vieux, je le ferai. C'était la période des à manger de Nalia, parce qu'on disait, on va lui donner à manger. Et du coup, pour elle, papa, c'est quoi l'à manger de la vache? C'est l'herbe. C'est quoi l'à manger du lion? C'est la viande. Donc elle me posait, c'était une période, ça a duré un mois, où elle voulait savoir ce qu'était la manger de tout, quoi. Puis au bout d'un moment, c'était, c'est quoi la manger des arbres? C'est l'air, c'est l'eau, c'est le... C'est quoi la manger du soleil? Je ne sais pas, va voir Thomas. Donc, mais ça voulait dire dans sa tête, de quoi cette chose-là se nourrit pour être là? La manger de l'enfant de Dieu, c'est la confiance. Le juste vivra, sera vivant, par la foi, en se nourrissant de la foi. Mais la foi, ce n'est pas croire que la mer existe. C'est cette relation de confiance qui fait que j'ouvre la porte et je dis, viens manger avec moi. Et ce travail, il se fait entre Dieu et nous, mais souvent, il va se débloquer dans des relations entre êtres humains. Et c'est pour ça que ce qui se passe dans un petit groupe de 2, 3, 4, quand Jésus dit « si 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom », c'est pas pour dire qu'il ne faut pas être 1 et qu'il ne faut pas être 10. Mais il sait, à 2, 3, allez, 4, pas 5, c'est déjà beaucoup, il se passe quelque chose qui peut déverrouiller les portes, parce qu'il y a de la confiance qui s'installe. On l'a vu dans les parcours Alpha Live, hein, ce qui fait que cet outil est incroyable. Alors oui, on mange ensemble, ben ça c'est génial, ça déjà ça, ça détend, hein. C'est le décontractant musculaire avant de passer aux choses. Hein. Alors oui, il y a une présentation d'un sujet, mais à la rigueur c'est pas le plus important, mais bon, ça met un peu de grain dans le moulin à moudre. Et puis après, il y a ce petit groupe où on va être toujours les mêmes 4 ou 5, et on va se livrer, enfin, ou pas, mais souvent ça se passe, et on sait que la règle c'est ce qui est dit là-dedans reste là-dedans, et personne n'a le droit de juger l'autre, et puis à la fin on ne va pas savoir si quelqu'un a raison ou a tort, ça n'existe pas dans ce groupe-là. Et ce qui se passe dans ces groupes est extraordinaire, juste fantastique. Les gens sont transformés, parce qu'il y a un endroit où ils peuvent ouvrir la porte, ils peuvent vivre de foi, vivre de confiance, ouvrir leur cœur. Et par là, le Saint-Esprit, parce que c'est ouvert, passe et vient toucher une petite graine qu'il a déjà mise à l'intérieur. Et pouf, il lui donne vie. Et elle vit. Alors ça peut se passer aussi ce matin pendant que je parle. Hein. Ça arrive de temps en temps, mais c'est plus rare. C'est moins efficace. Mais ça peut arriver. Et ce qui est génial en général, c'est que quand ça arrive... C'est quelque chose que celui qui parle n'a pas dit. Ça m'est arrivé, ça fait longtemps que je parle comme ça devant des gens le dimanche matin ou le mercredi soir. Ouais. Et à peu près 9 fois sur 10, où quelqu'un est venu me voir en me disant « Waouh, ce matin, tu as dit quelque chose, c'était juste incroyable. Ça m'a transpercé, ça a été jusqu'au fond de moi, ça a fait éclater quelque chose, ça m'a libéré, j'ai compris un truc, c'était fantastique. » Moi, je suis « Waouh, quand même, hein, je suis quelqu'un de bien. » Mais c'était quoi qui t'a touché? Et quand la personne explique, c'est un truc que je n'ai pas dit. Je suis sûr que je n'ai pas dit. Mais j'ai dit quelque chose qui a pu être pris par le Saint-Esprit, qui l'a associé à autre chose, qui a fait que... Et ça a trouvé le chemin parce que dans ce moment-là, la personne se trouve... Les champs étaient bien, la salle était à la bonne température, la lumière était cool, le voisin ne puait pas, c'était ci, il y avait ça. Je me suis laissé aller et le Saint-Esprit a dit... Dès qu'il y a une ouverture, il la trouve. Il est passé... Et la personne était transformée, elle dit « Waouh, c'est le message qui m'a transformé !» Non, ce n'est pas le message. Mais Dieu a utilisé tout ça, quoi, vous voyez. Et ça se passe beaucoup plus souvent dans des relations un petit... Bon, après, on est content de se voir, merci d'être là, j'aime vous voir, continuez de venir, c'est super, hein. Si j'ai plus de gens à raconter des histoires, j'ai plus de métier, donc c'est embêtant, hein. Voilà, non, comprenez, hein. Vu ce qu'a dit notre président, je peux continuer. Mais on a besoin de ça, et ça fait... Ça fait un travail qui est magnifique, qui est la repentance, la vraie. Et, dernier point, je termine avec ça quand même, hein, histoire, mais pas trop longue les histoires. Presque tout le temps, quand il est parlé de repentance dans la Bible, il est parlé de fruits qu'elle porte. Ce vrai changement à l'intérieur que le Saint-Esprit vient, où il nous change, il nous libère, il nous guérit, il nous sort de nos prisons intérieures, hein, il porte du fruit. On a un exemple incroyable avec ce qu'on appelle, ils doivent être fatigués qu'on les appelle comme ça les pauvres, mais les pèlerins d'Emmaüs, là, hein, c'était juste des hommes qui avaient suivi Jésus en croyant qu'il était quelque chose, qu'après ils ont cru qu'il n'était pas et que finalement il était, mais qu'ils ne savaient pas qu'il était. Ça fait beaucoup. Mais en tout cas, dans leur expérience, ils sont découragés, ils en ont marre, ils n'y croient plus. Ben, on a cru que, puis il est mort, c'est fini, fin d'une histoire triste. Ils s'en vont, ils s'éloignent, et Jésus les rejoint. Ils sont juste 3, c'est bien. D'abord, il les laisse parler. Hein, Jésus, il savait ce qui s'était passé, mieux que personne. Hein, il fait celui qui ne sait pas. C'est limite un mensonge, d'ailleurs. Ah bon, non, vous parlez de qui? Non, mais il gonflait quand même. Hein, puis il arrive à le faire sans rire, en plus. Quoi. Ah bon? Ah! Ben oui, tu sais pas, ben non. Ah, ben voilà. Et puis ils racontent, ils vident leur sac. Confiance qui arrive, parce qu'on me donne un endroit pour dire ce que je crois. Puis là, ce pingouin qui marche avec nous, on va plus jamais le revoir, donc on peut lui dire. Hein. On n'a pas à tenir un discours religieux. Oh, tu sais, nous, on a suivi le Christ, et puis maintenant, il est mort, mais on sait qu'il va rester. Non, on a suivi un mec, on a cru qu'il était, on s'est fait rouler dans la farine pendant 3 ans. C'était un imposteur. on pensait qu'il serait ça, on pensait qu'il serait ça, on pensait qu'il serait ça. Le gars, il est mort comme tout le monde, à 33 ans, il n'a rien fait, quoi. Il est juste mort. Et maintenant, en plus, on est en danger à cause de lui, parce que si on sait qu'on l'a suivi, on risque de nous tuer aussi, quoi. Alors, on se tire au plus vite possible. Mais c'était l'arnaque du siècle, ce machin. Et Jésus leur permet de dire tout ça. Hein ? Et puis, quand ils ont fini, ben, ils parlent quand même. Et comment ça ? Puisque ces gens-là, leur culture, c'est les Écritures. Hein, ben, voilà. S'ils étaient aujourd'hui, ils utiliseraient autre chose avec d'autres cultures. Mais ils leur racontent ce qu'il y a. Mais... Sauf que tout ce qu'il leur dit, ça, enfin, ils l'entendent, mais ça fait quelque chose, mais ils n'en sont pas conscients. Le déclic, c'est quand ? Hein ? Là encore, Jésus, super acteur, il aurait les décorations, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, les Oscars, le machin. Hein ? Il fait semblant de ne pas vouloir s'arrêter quand il s'arrête. Oh, le malin. Hein ? Allez, ben reste manger avec nous. Non, non. Ben si, ok, puisque vous insistez, les gars. Hein ? Non, mais il faut le faire. Hein ? Et là, il s'assoit. Et puis, ben, ils respectent leurs coutumes, hein, on rend grâce avant de manger, comme dans beaucoup de familles évangéliques, on a pris cette tradition. Et là, je ne sais pas, il y en a qui disent que c'est parce que pour prier, il a remonté ses manches, ils ont vu les... J'en sais rien. C'est le travail de l'esprit. Hein. Pendant qu'ils prient, ils le reconnaissent. Mais ils ne le reconnaissent pas pour le Jésus qu'ils ont connu et qui était un être humain qui les a déçus. Tout d'un coup, ils le reconnaissent pour ce qu'il est. Mais comment ils peuvent le reconnaître pour ce qu'il est puisqu'ils ne le savaient pas ? Ben parce que pendant qu'il marchait avec eux, après les avoir écoutés, il a mis dans leur cœur ces petites semences. Et au moment de la prière, parce que là, enfin, ils sont en confiance, ça y est, ce gars, ben, ok, il est comme nous, c'est un mec bien, il est tranquille, il est là. On a confiance. Ils s'ouvrent et ils le reconnaissent. Et une fois qu'ils l'ont reconnu, ils réalisent rétrospectivement le travail qui s'est fait. Ah ! Mais c'est pour ça, mais c'est bien sûr, mais c'est bien vrai, mais c'est pour ça que notre cœur était en feu pendant qu'on marchait, qu'il parlait. Mais, sauf que quand ils marchaient, ils ne se sont pas aperçus que leur cœur était en feu, sinon ils l'auraient dit. C'est là qu'ils s'en sont aperçus. On ne peut apprendre que ce qu'on sait déjà. Mais si on le sait déjà, c'est parce que quelqu'un nous l'a appris. Mais qui nous l'a appris ? C'est le Saint-Esprit qui est venu le mettre dans le cœur. Et puis à un moment, parce qu'ils se sont ouverts dans ce moment où on rend le pain, on prie, on est autour de la table, on est trois, puis c'est sympa. Puis là, dans l'auberge, on n'a plus trop peur. Hein. Il y a une repentance. Mais ce n'est pas eux qui se sont sentis coupables d'avoir abandonné Jésus. Ce n'est pas ça. La culpabilité n'a rien à voir avec la repentance. La culpabilité, c'est l'œuvre du diable. Enfin, c'est une réponse psychologique à quand on pense qu'on a mal agi. On peut avoir raison ou tort en plus. Cette vraie repentance qui est Dieu qui change les choses à l'intérieur, et il y a toujours un fruit. Qu'est-ce qui se passe avec ces pèlerins ? Ces deux pauvres gars, que j'essaie d'appeler autrement, mais je ne trouve pas. Au milieu de la nuit, ils se lèvent et ils refont les 12 bornes dans l'autre sens pour repartir à Jérusalem. Ils avaient peur, ils fuyaient, ils étaient déçus. Spontanément, ils se lèvent, ils refont le chemin à l'envers, ils avaient peur de jour, ben ils le font de nuit, et ils vont frapper à la porte où il y avait les autres disciples, et on a une nouvelle incroyable, en fait, il est ressuscité. Mais les autres, ils savaient déjà, zut, à part Thomas. Hein. Et là, ils sont tout contents, ils se sont retrouvés. C'est ça le travail de la repentance que Dieu donne dans sa bonté. Mais il faut qu'il y ait ce moment où on est à table. Des fois, c'est tout seul avec Dieu, on est à table avec lui. Souvent, c'est avec des amis. Je pense même que ça peut être avec des gens qui eux-mêmes sont ce qu'on appellerait des pas-croyants, parce que ça ne veut rien dire, mais... parce que si juste ça permet qu'on soit en confiance avec des gens qui sont bienveillants et qui nous aiment, parce que ça existe, bien sûr, hein, il y a aussi des chrétiens qui sont malveillants et qui ne nous aiment pas. et le Saint-Esprit peut... Voilà, juste parce que la confiance fait qu'on s'ouvre. La manger du juste, le juste c'est celui que Dieu a déclaré juste, hein, parce qu'il a accepté que ce que Christ avait fait pour lui. La manger de l'enfant de Dieu, c'est la confiance. Et cette confiance, elle permet à l'esprit de faire son travail. Semer, se retirer discrètement. Jésus a une parabole comme ça, avec un homme qui vient de nuit semer des trucs. Bon là c'est négatif, hein, mais il avait cette idée en tête, quoi. Et puis là c'est le contraire. Le Saint-Esprit, il vient quand on ne sait pas, il sème des petits trucs, on ne sait pas. Et après, il attend qu'il y ait une circonstance favorable pour... Pouf, là, il faut qu'on l'invite. Non, je suis occupé. Hein ? C'est l'histoire des gens qui vont avec le bon samaritain. Hein ? C'était des prêtres. Ils n'ont pas le temps de s'occuper du gars. Ils devaient être à l'heure au culte. ils devaient être à l'heure à la répétition, ils devaient être à l'heure pour prêcher le message. Donc ils n'ont pas le temps de s'occuper du gars dans le fossé, quoi. Mais il y en a un qui s'arrête, et puis c'est ce que Dieu veut qu'on vive, on s'arrête et puis on passe un moment avec lui, on mange avec lui, et hop, il y a tout qui change, enfin, tout, pas tout d'un coup comme ça, mais il y a des changements qui se font. Et là, les gens de l'extérieur, ils se disent, mais comment ça se fait ? Et ce qui est magnifique, c'est que pour les gens qui ont l'activité que j'ai, on est là, on essaie d'expliquer les choses aux gens, on veut les convaincre, on veut les persuader, il faudrait, ça serait mieux si il se passe rien. Et puis tout d'un coup, pouf, ça se passe. Et zut, alors je ne sers à rien ? Ben, pas grand-chose. Un peu, mais pas grand-chose. Parce qu'en réalité, oui, il faut aussi semer, il faut ça, mais c'est ça. Hein. Quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra. Les convictions, c'est ça. Tout le reste, c'est de la religion. Et la religion, c'est des outils pour se protéger de Dieu, pour le tenir à distance. Hop, je sais, c'est comme ça, ça ne me touche pas. Hein. Après, ben, on est tous religieux par moment, l'être humain est religieux. Hein. Mais on peut tous aussi, à des moments, dire, j'ouvre la porte, viens manger avec moi. Et puis, il va se passer quelque chose. Donc, je vous encourage aussi, si vous n'avez pas le privilège d'avoir au moins un vis-à-vis, deux, trois, avec qui vous pouvez, vous savez, ces endroits où on n'a pas besoin de marcher le dos contre le mur parce qu'on sait que personne ne va vous planter un tournevis entre les omoplates. On peut laisser le couteau sous la table. Non, non, on ne va pas m'égorger avec. Je peux manger sans faire goûter, on ne va pas m'empoisonner. Là. Et où je peux être comme je suis. Je n'ai pas besoin de rentrer le ventre, de mettre ma perruque, d'utiliser les bons mots. Non, non, juste, c'est moi, en pyjama, là, vous savez, ces gens avec qui on peut, voilà, les recevoir en pyjama, hein. Ils arrivent, on n'est pas maquillé, on n'est pas coiffé, on sort du lit, hey, « Salut, tu prends un café ?» On s'assoit autour de la table. On sait qu'ils ne nous jugent pas, ils nous prennent comme on est. Et là, il se passe quelque chose. Et on a besoin de ça spirituellement. Et puis aussi de moments où on se retrouve plus et on fait la fête, et c'est génial, et c'est super. Gloire à Dieu. Seigneur, merci parce que ce que nous, on ne peut pas faire, heureusement, toi, tu sais le faire, tu peux le faire, tu veux le faire. Et je te prie que bah, derrière tous mes mots maladroits et toutes mes tentatives pour partager ces choses-là, qu'encore une fois, toi, tu viennes le faire, Seigneur, à ta façon, à ton temps, dans ton rythme, avec les personnes que tu veux, et qu'on puisse se réjouir ensemble des fruits que ça produit et aussi des témoignages de ce que tu as fait dans les cœurs. Parce que c'est aussi pour ça qu'on se rassemble. Et ce qui te glorifie, c'est ça. Qu'on puisse témoigner de l'action de ton esprit en nous et autour de nous. Parce que là, c'est tellement évident que c'est toi qui l'as fait. C'est plus du langage religieux, mais c'est juste être témoin de ce que tu as fait et d'en parler. Alors qu'on puisse continuer de progresser individuellement, communautairement, et puis pour toute cette région aussi, voilà, que ton règne vienne, que ton royaume soit en mouvement, soit visible parce qu'il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui te font confiance et dont la confiance en toi devient la nourriture essentielle de leur vie.